franceinter.fr.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans le premier remède à la mélancolie de 2015. L'émission qui tente chaque dimanche matin de bousculer le vague à l'âme en compagnie d'un invité charitable et de ses antidotes au spleen. Bonne année à tous, j'espère que vous n'avez pas déjà le bourdon à cause d'une résolution non tenue. Si c'est le cas, sachez que la seule chose qui importe vraiment, c'est de se comporter comme un chic type avec soi-même. Alors peignez-vous avec tendresse, tenez-vous la porte, faites-vous la cour, votre fiéleux prochain pourrait même avoir la fantaisie de suivre vos pas. Cette émission a été préparée avec diligence par Laure Grand Besançon, réalisée par Lilian Allôme et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Stéphane Poitevin. Et la gourmandise fantôme ce matin, c'est un manuscrit encyclopédique illustré du XIIIe siècle, le livre de la nature des choses du théologien Thomas de Quentin-Pré. Dedans, l'artiste rassemble toutes les connaissances que les hommes pensaient détenir à propos de l'univers en 1240. À visée didactique, l'ouvrage est également une véritable œuvre d'art grâce à ses enluminures et à la poésie de ses inventions. Sur le lien que nous mettrons sur le site, la page qui s'intitule « Monstres marins, dragons et dauphins », vous pourrez par exemple apercevoir une sorte de poisson-lion mélancolique jaillissant des flots, un demi-kangourou fennec roulant des mécaniques et un elfe lapin-lézard aspirant des bulles d'or. Toute ressemblance avec des membres de votre entourage ne peut être que fondée. Chers auditeurs, si à un moment de votre vie, vous avez eu l'occasion d'être un enfant, alors vous avez entendu les chansons de notre apothicaire de l'âme. Il a fêté en 2014 ses 50 ans de carrière, 15 disques d'or, une trentaine d'écoles, de crèches, centres de loisirs et salles de musique qui portent son nom en France et en Suisse. Il se destinait pourtant au dessin d'architecture. La cathédrale de Genève, pour qui il a composé un carillon, la cathédrale de Genève en personne, évoqua avec émotion l'époque où notre homme occupait les nobles postes de colporteur de savon, livreur de journaux et figurant à l'opéra. On a beau faire le tour de la noirceur du monde, à chaque fois que l'on s'interrompt pour se tourner vers lui, on aperçoit toujours la même joie, la même bienveillance. Comment est-ce possible, marmonnent les billes noires? Nous allons tenter d'y répondre, mais pour l'heure, saluons-le avec enthousiasme. Henri Dess, bonjour.
Bonjour.
Il y a un petit rituel dans cette émission. Je vais vous demander de nous faire entendre votre humeur de ce dimanche matin, sans aucun mot. Vous avez le droit à un son, le son que vous voulez. On veut entendre le bruit de votre âme. Alors, votre âme était un peu bercée comme un enfant, c'était serein, apaisant, mais en même temps, il y a un petit sifflotement qui montre qu'on est sur le chemin et qu'on ne se laisse pas faire.
Oui, on est chez soi, on est sur le chemin, on est en train de traficoter, comme on dit, un petit peu quelque part, sans vraiment travailler, sans se buller un petit peu, j'aime bien.
Ah bah oui, bulons, traficotons.
Bulons.
C'est chouette. Alors d'abord, on doit se débarrasser du mal, évidemment, avant de se rouler dans l'alacrité générale. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie, Henri Dess ?
Très éloigné. J'ai rarement des passages de mélancolie. Ça m'arrive très très peu. Quand ça arrive pas longtemps. Je suis quelqu'un d'assez positif. Donc je sais qu'on peut descendre un petit peu dans une petite noirceur pendant un petit moment. En se poser des questions. On dit, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça. Mais ça arrive parfois à certains. Et je pense que c'est un petit peu embêtant d'en sortir. Mais moi, ça m'arrive pas.
Depuis toujours?
Depuis toujours, oui.
Donc vous n'avez aucun effort à faire dans ce
non,
domaine-là?
Non, je fais pas d'effort. Enfin, j'ai fait d'autres efforts sur d'autres piste, mais celui-ci, c'était assez naturel, si vous voulez. C'est en moi, et malheureusement pour moi, d'ailleurs.
Quand un événement triste arrive, par exemple, je ne sais pas, un décès, et les décès, ça peut être aussi parfois la fin de relations, d'amitié, des gens qui s'éloignent, plein de choses. Comment vous réagissez, spontanément?
Oui, alors c'est très très curieux, parce que quand il y a un décès, par exemple, ma maman est décédée, au départ, j'ai pas réagi. Elle est partie, voilà. Et puis, c'est quand on l'a mis en terre que ça m'a choqué, quoi. Là, j'ai pleuré, mais ça a duré 2-3 minutes. Et puis après, je pense à elle, de manière bienveillante, le reste de la vie, quoi, de la mienne en tout cas.
Vous arrivez à vous concentrer sur les bons souvenirs.
Oui, et puis tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle m'a donné. Une maman, c'est des fois un peu oppressant. C'était une maman qui était très aimante, des fois un peu trop. Surtout quand on est adolescent, on n'a pas envie d'être serré dans ses bras tout le temps, d'être tripoté, quoi. Donc, du coup, maman, ça va, bon. Surtout devant les copains, vous savez, c'est un peu comme ça.
Ah oui, non, on fait semblant que ce ne sont pas nos parents, qu'on ne les connaît pas.
On passe sur l'autre côté du trottoir, on avait envie de se promener avec, voilà. C'est un petit peu ça, c'est un peu l'adolescence. Et puis après, on se rend compte... qu'elle a été très importante. Par exemple, quand j'ai lu le livre de ma mère d'Albert Cohen, ça m'a ouvert les yeux sur l'amour d'une maman, et puis l'amour qu'on porte à sa mère.
Chers auditeurs, préparez-vous, préparez vos mamans. Voici le sommaire. Dans quelques instants, Henri Dès convoquera un mafieux dépressif, des gens déguisés en vacanciers, de la sophrologie et de la gymnastique, un dicton populaire suisse, Philippe Delerme, Alain Souchon et Georges Brassens, le rire d'Elvis Presley, l'auteur de bande dessinée Zep, sa famille, ses spectacles et des spaghettis en folie. Tout cela, c'est juste après l'écoute de l'une de vos chansons, l'une des rares à parler de grande tristesse. C'est pour ça que je l'ai choisie, parce que dans cette émission, on est vraiment underground.
J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux. Je me traîne ma flemme de la fenêtre au lit. Et puis je fais idem, la fenêtre au tapis. Mes affaires sont par terre, dans un désordre fou. J'ai décidé de rien faire, je m'en fous. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux. Je cherche mes chaussures, j'ai fourré Dieu sait où. Y en a une, c'est sûr, qui dépasse en dessous. Je la vois, la coquine, qui rigole dans son coin. Car je tiens sa copine dans ma main. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux. Je pousse ma savonnette sous l'eau du lavabo pour me faire une toilette, me frotter le museau. Ça me prend trois quarts d'heure et déjà l'air de rien. J'ai lavé sauf erreur mes deux mains. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux. Tout le monde m'agace, je sens bien que je suis grognon. Pour tout je fais la grimace, je ne fais rien de bon. Que voulez-vous que je vous dise? Il y a des jours c'est comme ça. Je le dis avec franchise, ça va pas. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant. J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux.
écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes en compagnie d'Henri Dess, dont on vient d'écouter le titre Envie de rien. Et je pense qu'on projette tous selon sa sensibilité, puisque pour moi, c'était évidemment le protagoniste fait une dépression nerveuse. Mais pour Henri Dess, pas du tout. Il a envie de rien, mais c'est pas plus profond que ça. Il va aller mieux après.
Oui, je le dis d'ailleurs, demain, ça ira mieux. Et je crois que des fois, c'est bien de se laisser un petit peu embarquer comme ça, à ne rien faire. Voilà, puis dire, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, je fais rien, je me laisse rouler. Quoi.
Ne pas lutter contre ça.
Ne pas lutter, je crois qu'il ne faut pas lutter parce qu'après on remonte bien.
C'est vrai, on touche le fond pour rebondir.
Pour rebondir, oui. Parce que la roue, elle tourne toujours un peu dans le même sens, quand elle arrive en bas, elle remonte.
C'est vrai, et quand elle arrive en haut, elle redescend, ce qui est
et
terrible.
Oui, malheureusement, il ne faut pas être en haut, il faut être en bas.
Non, c'est vrai, oui, c'est oui, ça, finalement. Il faut être en bas.
Il faut être en bas.
Vite, allons en bas, chers auditeurs, et commençons à entrer dans vos remèdes. Vous avez une règle à laquelle vous ne dérogez jamais dans vos chansons, vous abordez tous les sujets, mais jamais avec violence. Je suis donc la seule grosse brute de ce studio. Ah non, attendez, il y a aussi votre premier remède, Tony Soprano.
Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, tout le monde va voir des psys. Ou des conseillers, ou encore a envie d'aller raconter ses petits problèmes à la télévision. Vous croyez que ça arriverait, vous, à Gary Cooper? Il était fort, lui, il savait assumer. Ça, c'était un vrai Américain. Il passait pas son temps à s'écouter. Avant tout, il finissait ce qu'il avait à faire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand Gary Cooper avait décidé de ce qu'il faisait, il n'était plus possible de l'en empêcher. Et que les troupes de ceci, les troupes de cela, lui, il n'en avait rien à foutre.
On dirait que ça vous tient énormément à cœur.
Je vais vous dire, j'ai dû faire un semestre et demi au collège à essayer de savoir qui était Freud, à essayer de voir la thérapie en tant que concept. Mais dans mon monde, tout ça, ça dégage. Est-ce que je peux être plus heureux? Ouais, ouais, tout le monde y arrive.
Est-ce que vous vous sentez dépressif?
C'est quand les canards sont partis que je l'ai ressenti.
La réjouissante série Les Sopranos de David Chase avec le regretté James Gandolfini dans le rôle de Tony Soprano, un mafieux sujet à des crises d'angoisse. Et là, il parle des canards puisqu'il a une passion pour des canards dans le premier épisode.
Oui, il y a un truc avec ces canards. Au début, on se demande ce qu'il vient faire avec ces canards. En fait, je trouve que cette histoire est assez étonnante. Moi, j'ai tout regardé. J'ai vu les 6 séries.
Les 6 saisons.
Oui, c'est ça. J'ai tout regardé. Et j'ai adoré cette série. C'est une des plus belles séries que j'ai jamais vu avec Breaking Bad et certaines autres. Il n'y en a pas beaucoup qui vont à la cheville de celle-là. Et Gandolfi, il est absolument remarquable. En fait, c'est un mafieux. Et on le voit sous un angle particulier. C'est-à-dire qu'il est dans avec sa famille, sa femme, son fils, sa fille, qui vont à l'école, qui ont une vie tout à fait normale. Et lui, il fait des horreurs. Quoi. Fait des horreurs. Et dans son métier, ça dégomme complètement. Quoi. C'est incroyable. Puis il a une espèce de bonhomie. Vous savez, il est assez gros comme ça. Il est assez rond. Des yeux rieurs, mais quand tout d'un coup il se fâche, il est impressionnant de vérité. Et j'ai vraiment regretté son décès. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il va manquer au cinéma.
Dans cette série, bon, tout d'abord, il a effectivement un charme fou, mais il se livre à des choses absolument abominables. Est-ce que cette série réveille votre part d'ombre, Henri Dess?
Non, je ne crois pas. Non, j'en sais rien.
Ou le fantasme du bandit, un peu.
Non, je ne suis pas comme ça. Non, mais je veux dire, j'ai aimé ça parce que je veux dire, quand les choses sont bien faites, on a un plaisir fou, on se réjouit d'en voir encore un le lendemain, etc. J'ai acheté ces séries-là sur Internet. Et je regarde quand je veux, c'est ça, c'est très agréable. Quoi. Voilà.
Et on suit quand même 6 ans de psychanalyse dans cette série, le scénario est incroyable.
Oui, puis il est tout le temps avec cette psychanalyse parce qu'il est mal dans sa peau, il se demande si... Voilà, puis alors les autres mafieux disent, attendez, il est en train de se confier à une psy, mais ça ne se fait pas dans notre milieu. Après, la psy, elle va dégommer ailleurs, elle va raconter, puis après on va se faire attraper par la police. Enfin, c'était terriblement bien fait. Quoi.
Il est aussi, il partage avec vous les amours des plaisirs de la table.
Aussi, ouais.
Il est tout le temps fourré chez Artibucco, au restaurant Le Vesuvio.
Oui, puis il mange les spaghettis d'une certaine façon, les canenoni, tout ça, enfin, toutes les pâtes italiennes. Ce sont des Italiens qui vivent à New York et qui sont dans la mafia italienne quoi, de New York.
On en parlait tout à l'heure des spaghettis. Et il oui. faut dire, juste pour l'anecdote, que la série partage 27 acteurs en commun avec le film Les Affranchis de Scorsese.
Ah
oui.
D'accord.
Voilà, c'est la chute de ce scoop.
Oui.
Et vous avez cité aussi la série Breaking Bad de Vince Gilligan. C'est l'histoire d'un prof de chimie atteint d'un cancer du poumon, reconverti en producteur et revendeur de méthamphétamine pour assurer l'avenir financier de sa famille.
Mm-hmm.
À nouveau la famille qui va revenir pendant toute l'émission.
Et encore, là encore, on retrouve un mec normal, disons, ben c'est un professeur de science, de recherche scientifique. Et il a peur de mourir et il a peur que sa famille reste un peu sur le carreau. Donc en fait, Il contacte un jeune homme qui est un petit revendeur de drogue et lui demande s'il ne veut pas s'associer à lui. Il se retrouve à la tête de cette entreprise et il devient parrain redoutable, alors que c'est un petit prof. Et personne ne sait qui c'est, parce qu'on ne peut pas imaginer que c'est lui. Et son beau-frère est dans la police, c'est justement quelqu'un qui recherche justement ces gens-là, les mafieux, etc. Donc en fait, il joue double jeu, mais c'est fantastique, cette série-là.
Peut-être que l'un de vos remèdes, Henri Dess, aurait fait du bien à Tony Soprano. Même si nous sommes quelques-uns à ne pas y être sensibles, ce n'est heureusement pas votre cas. Vous pratiquez la sophrologie, cette technique de relaxation fondée sur des exercices de respiration et de gestion de la pensée. C'est ça ?
Oui, je fais ça depuis 25 ans.
25 ans ?
Oui, j'en ai fait cette nuit encore.
Cette nuit ?
Mm-hmm.
Avant de dormir ?
Non, parce que je me suis réveillé à 3h du matin et puis j'ai eu un petit peu de peine à me rendormir. J'en ai fait, je me suis rendormi.
Bon, alors ça consiste en quoi concrètement ?
Alors, c'est une méthode qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Caicedo, je crois que c'est un espagnol, et qui a un petit peu réuni plusieurs concepts.
Un colombien, je crois, un neuropsychiatre.
Voilà. C'est un colombien, oui. Caicedo ? Oui. Il a réuni un petit peu le yoga, enfin différentes formes de thérapie comme ça, mais destinées à un public européen, occidental. Ces méthodes comme le yoga, ça doit être éventuellement peut-être accompagné d'une autre façon de manger, d'une autre façon de ceci, cela. Alors qu'avec cette sophrologie, on peut vivre normalement. Vous pouvez le faire, moi je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Et c'est vraiment technique. On apprend, si vous voulez, cette technique en deux jours. Moi j'ai fait ça en deux jours.
En deux jours ?
En deux jours, oui. Je suis allé à Lézin, en Suisse, chez un monsieur qui s'appelle Abrozol, qui est un spécialiste, qui nous a appris, on était une vingtaine, et il nous a appris la méthode. Et ça s'apprend par phase, comme ça. On commence par prendre conscience de son corps, calmer un petit peu les muscles qui sont autour des yeux, autour de la bouche, etc. Puis on descend. On ressent une espèce de poids dans les membres. On essaie de le ressentir. Au début, c'est difficile, on ne sait pas faire ça, mais on y arrive. Ensuite, la chaleur. Ensuite, d'entendre battre son cœur. Son cœur part dans toutes les... jusqu'aux extrémités. Moi, ça a été un petit peu dur d'aller jusqu'au bout des pieds. Je suis un peu grand, mais c'est un petit peu facilement au bout des gens. Je sentais la débattue dans les, comme on dit, je ne sais pas si on dit ça chez vous, on a eu froid, quand on fait du ski, tout d'un coup, on revient au chaud, puis ça cogne dans les extrémités des doigts, comme ça, ben, ça s'appelle la débattue. Et donc, je sentais cette débattue, c'est-à-dire que le sang arrive au bout des doigts, des extrémités, et puis après, on entend sa respiration. On sent son ventre se lever et s'abaisser comme une mer calme, comme ça. Et après, on s'envoie, si vous voulez, des choses positives. Et on s'endort.
Bon, alors bravo, en tout cas, vous incarnez parfaitement ce à quoi les trois quarts de l'Occident aspirent. Un esprit sain dans un corps sain, la preuve en musique.
Si je faisais du sport, je deviendrais beau et fort. Gymnastique, 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 gymnastique,
gymnastique de, tenez-vous bien, chanson plus bifluorée pour illustrer ce à quoi ça donne votre corps tous les matins, Henri Dess, de la gymnastique.
Tous les matins, en me levant, je fais une gym dans mon lit avec ma femme. On fait 100
fois. En même temps.
En même temps, oui. On s'est rendu. Quand elle commence, c'est moi qui continue. Si je commence, elle dit ah ben elle a commencé, je vais y aller. On fait d'abord une centaine de flexions abdominales.
Wow.
On fait 100 abdos.
En musique ou comme
non,
ça
non, 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 comme ça.
Ouais. Et vous comptez tout haut ?
Non, chacun de son côté. On fait notre truc et on fait donc ces tractions abdominales. On prend le petit déjeuner et ensuite j'ai la chance d'avoir une piscine chauffée. Donc on fait toutes sortes d'exercices de gym dans la piscine pendant à peu près 40 minutes, tous les jours, tous les matins.
Et vous ressentez les sensations immédiatement après ou même pendant ?
Moi je crois que vous savez, c'est des gyms douces, donc on ne ressent pas grand-chose derrière, sauf qu'on sait que ça vous permet de garder une construction musculaire correct, surtout à mon âge. Donc il faut arriver à... Moi, je pense qu'en faisant ça, je prolonge ma santé, en tout cas, ça c'est sûr.
En tout cas, il paraît que si on fait seulement 10 minutes d'exercice avant le petit déjeuner, c'est suffisant pour sécréter des endorphines, l'équivalent de l'ecstasy pour les gens sains. Est-ce que vous avez déjà entendu parler...
C'est impossible. Ouais.
Vous avez déjà entendu parler du Radio Taiso ?
Non.
C'est fait pour vous, c'est au Japon. Et en fait, c'est Radio Gymnastique. C'est une musique qui est diffusée tous les matins à la télévision et à la radio à 6h30 pour inciter les Japonais à faire leur gymnastique dans les écoles et tout ça. On mettra la vidéo sur le site.
C'est bien, c'est très très bien. Moi, je n'ai pas besoin ni de la radio ni de la vidéo, mais voilà.
Vu le bruit de ce silence, je peux vous dire, Henri Dess, que nous venons de nous télétransporter. Est-ce que vous entendez ? Nous sommes au bord de la mer.
Ouais.
Nous sommes là pour observer ce qui vous fait rire. Je vous cite, les gens qui passent déguisés en vacancier dans une station balnéaire. Qu'est-ce que c'est un déguisement de vacancier ?
Bon, avec ma femme, on est très moqueurs. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est de s'asseoir à une terrasse de café et de regarder les gens. Mais c'est ahurissant que c'est drôle, quoi. Parce qu'en fait, ils se déguisent pour être en vacances. Ils n'ont pas l'habitude. Ils sortent du bureau, ils ont une cravate, un truc, il faut absolument qu'ils soient autrement. Donc, ils mettent un pantalon à fleurs, des chemises improbables. Les dames sont ratifées de manière invraisemblable, parfois, souvent même. Donc, ça nous fait hurler de rire. Puis on les regarde, puis on se moque. C'est pas gentil, c'est comme ça.
C'est humain. Comment vous vous habillez, vous, en vacances ?
Bon, même chose que d'habitude. Je suis toujours en vacances, moi.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai. J'ai pas besoin de me déguiser aussi pour aller au travail. C'est ceux qui se déguisent pour aller au travail qui ont besoin de se déguiser ailleurs, pour changer leurs habitudes. Mais moi, je suis comme je suis, voilà.
Ils sont déguisés en permanence, mais en même temps, la vie, c'est un peu une mise en scène permanente de soi.
Je pense, oui. Et moi, j'ai pas besoin de me mettre en scène, donc je suis comme je suis, les gens me prennent comme je suis, voilà.
Le regard d'autrui, c'est quelque chose qui vous indiffère ?
Pas du tout.
Mais vous n'en êtes pas esclave ?
Non, mais je considère que je suis assez sûr de moi pour me dire, ben voilà, si les gens m'aiment comme je suis, ben tant mieux pour moi, c'est tout.
Alors dans un instant, nous nous pencherons sur un sage dicton populaire, mais tout de suite, un morceau de la playlist de France Inter, Méchante Envie, extrait du dernier album de Charlélie Couture.
Pas de nouvelles de toi, depuis au moins deux mois, es-tu vivant ou t'es-tu perdu? Envie de tout, envie de rien, méchante envie, petit matin, j'ai coupé le son, c'est fini, j'ai vu partir les musiciens. Y'a trop d'intrigues autour de moi. Certains disent que t'es loin, d'autres ne disent rien. La lune est claire, les nuages, il y a du gaz dans ma mémoire. Dans le vague, sur la plage, je sais plus qui faut croire. Essaye aussi de faire son job. Envie de tout, envie de rien, méchante envie, petit matin. Mon col lourd, ayez pitié, je vais rentrer à pied. J'ai trop aimé pour être aimé, j'ai trop sué sous la de signes qui me parlent de toi.
Vous écoutez Remède à la mélancolie sur France Inter et nous sommes toujours en compagnie d'Henri Dess. Alors Henri Dess, nous avons trouvé votre maxime consolatoire, dite par Coluche.
Comme il dirait les Suisses, hein, quand on voit ce qu'on voit, puis qu'on entend ce qu'on entend, ben on a raison de penser ce qu'on pense. Hein.
Coluche, dans son sketch de 1986, il se fout bien de notre gueule.
Mais il avait presque le bon accent, c'est très rare chez vous quand vous prenez un accent, c'est pas forcément un accent comme ça, un peu hybride qui donne l'impression de ça, en traînant un petit peu que c'est suisse. Mais lui, là, c'est pas mal.
Vous arrivez à forcer l'accent suisse ?
Oh, ben, quand vous voulez.
Allez-y.
Ben écoutez, voilà, c'est quand on sait ce qu'on sait, quand on entend ce qu'on entend, ben on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ça, c'est vaudois.
C'est d'une logique imparable.
C'est imparable. De toute façon, c'est comme si on ne voulait pas s'occuper de ce qui se passe aussi. Hein. De toute façon, ça va rien changer. Voilà.
Ça m'a fait penser à une citation de Talleyrand, cet homme politique du 18e qui disait « Si cela va sans dire, ça ira encore mieux en le disant. »
Oui, ben c'est un peu ce genre de truc. Ouais.
Oui, ouais. On peut le sortir dans toutes les situations.
Absolument, oui. Ouais.
Ce principe, un véritable charme populaire comme votre sérum littéraire, qui s'intéresse aux petits plaisirs simples qui constellent le quotidien, le commun, de poudre poétique. Il s'agit de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme, paru en 97. Comment définir cet ouvrage ? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de petits poèmes en prose, 34 petites joies simples, on passe du pain au chocolat, à manger sur le trottoir, au couteau dans la poche, au grotesque et fascinant banana split
Oui, mais je crois qu'il a réussi à trouver, je trouve ça parfaitement juste, parce que dans la vie, on cherche les grands bonheurs et puis ils n'arrivent pas, quoi. Et en fait, c'est quand on cherche les petits, ils sont autour de vous, ils sont partout. Il faut les observer, il faut regarder autour de soi. Et je trouve que Delerme a eu là un trait de génie à mettre le doigt sur ces petits plaisirs de la journée, des petits plaisirs de boire la première gorgée de pierre. Ça, c'est le titre de son bouquin. Et vous voulez que j'en lise un extrait ?
Ah oui, avec plaisir. Ouais. Ouais.
Alors bon, là, j'ai pris le paquet de gâteaux du dimanche matin. Alors vous allez à la boulangerie et ça se passe comme ça. Des gâteaux séparés, bien sûr, une religieuse au café, un Paris-Brest, deux tartes aux fraises, un millefeuille. À part pour un ou deux, on sait déjà à qui chacun est destiné, mais quel sera celui en supplément pour les gourmands ? On égrène les noms sans hâte. De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Elle ne manifeste même pas d'impatience quand elle doit changer de carton. Le millefeuille ne tient pas. Le millefeuille ne tient pas dans le carton. C'est important ce carton plat, carré, au bord arrondi, relevé. Il va constituer le socle solide d'un édifice fragile au destin menacé. Ce sera tout ? Alors la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt noué d'un ruban blanc, brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous, mais dès que la porte du magasin franchit, on le saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. C'est ainsi. Les gâteaux du dimanche sont à portée comme on tient un pendule.
C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup celui sur l'inhalation. Quand on est malade, Philippe Delerme fait de l'inhalateur un univers dans lequel on pénètre. J'avais noté cette phrase. On se dilate dans l'évanescence, immergé dans la vapeur des fièvres intérieures. On ne veut plus lever le voile.
Mais je trouve qu'il dit tout de manière très, 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 très juste, quoi.
Est-ce que ce livre a changé votre regard sur les choses ? Vous y faites plus attention ou au contraire, il vous a touché parce que vous faites attention aux détails ?
Non, ça m'a confirmé. Ça a confirmé parce que c'est ma façon de voir la vie, de ressentir les petites choses et d'appréhender les moments de bonheur de la journée ou de l'heure ou de la minute.
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard. Et je signale aussi qu'il est à la tête d'une très très chouette collection chez Point, Le goût des mots.
C'est dommage de pleurer comme ça. Je suis sûr que tu es très malheureuse. Mais quand même, réfléchis bien à ce que tu sens au fond de toi. Tu pleures, tu es très malheureuse. Mais tout en pleurant, tu sens un petit plaisir.
Remède.
Oui, c'est vrai, ça fait un petit plaisir.
À la mélancolie.
Il faut toujours un contrepoint au plaisir afin de mieux le savourer. Alors pour vous, Henri Dess, la chose qui vous plonge indéniablement dans la tristesse, et je ne vous contredirai pas, ce sont les émissions de télé-réalité. Je pense qu'il est superflu de vous demander pourquoi.
Bon, d'abord, je trouve le titre faux. C'est complètement hors de la réalité. On installe des gens dans une espèce de faux décorum, avec des faux dialogues, avec des fausses attitudes. Et c'est pour moi tout à fait insupportable. Je regarde 5 minutes J'ai vraiment envie de voir n'importe quoi, mais ça peut même pas, surtout pas ça, quoi, voilà.
C'est stupide.
Mais bon, je veux dire, je vais pas non plus me mettre à la place de ceux qui ont du plaisir à voir ça. J'imagine qu'ils y trouvent leur compte, il faut leur poser la question une fois.
En tout cas, il est temps de se consoler avec vos élixirs musicaux, si vous le voulez bien. Voici le premier.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir, pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu.
1993, L'amour à la machine, Alain Souchon sur l'album C'est déjà ça. C'est étonnant comme choix puisque ça parle quand même d'un amour qui meurt.
Ben justement, le mien n'est pas mort.
Ah.
C'est pour ça que je trouve cette chanson très juste. La difficulté que peuvent avoir les gens à rester ensemble, à vivre longtemps ensemble. Moi, ça fait 50 ans que je suis avec la même petite chérie.
Marie-Josée.
Marie-Josée, on est toujours très amoureux. Passer l'amour à la machine, c'est quand ça commence un petit peu à déraper, puis qu'on va essayer de remettre un peu de couleur dans tout ça. Moi, ça va. Ça va, c'est magnifique. Ça, elle me fait une belle vie.
Vous avez des conseils pour entretenir les vêtements sentimentaux, alors?
Oui, les vêtements sentimentaux. Non, c'est difficile. Il faut être deux pour que ça fonctionne. Il faut pas tout tirer de son côté. Il faut essayer de comprendre l'autre. Une femme est très, très difficile à comprendre. Puis pour une femme, un homme aussi. Donc c'est en vivant, en faisant des petites expériences jour après jour, minute après minute. C'est un petit peu comme du Delerme. Hein. C'est ces petits bonheurs qu'on va chercher chez l'autre. Et peut-être que c'est ces petites choses qu'il faut essayer de préserver, d'arriver à faire marcher.
Bon, Cache-Cache, votre premier album pour enfants est sorti en 1977, l'année de la mort d'Elvis Presley. L'une de vos deux références majeures avec Georges Brassens. Et surprise, ce sont vos deux autres choix.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, gare aux gorilles.
1952, Gare aux gorilles, Georges Brassens. Ça devait s'appeler Gorille Vendetta. C'est quand même l'histoire d'un gorille en rut qui veut perdre son pucelage et qui viole un juge.
Plutôt que la vieille qui...
Oui, hein, qui, ça doit être très vexant pour la vieille d'ailleurs.
Ah, oui.
Pourquoi cette chanson?
Bon, Brassens, c'est à cette époque-là que j'ai découvert Brassens grâce à un ami qui avait un frère qui était un amoureux de Brassens, qui avait une petite guitare, puis qui essayait de chanter ses chansons. Puis il m'a fait découvrir ce titre en particulier. Il y avait aussi les bancs publics, enfin tous ces tout premiers titres. Et puis c'était un choc magnifique, quoi, d'écriture, de justesse, de poésie et de drôlerie. Et de mélodie aussi, parce que tout le monde pense parfois que Brassens, c'est un peu simple. Boum da boum da boum da boum da boum. Bon, mais c'est pas ça, hein. C'est pas que ça. La mélodie et toutes les mélodies qu'il a faites sont assez complexes et assez intéressantes et chantables. Donc j'ai adoré Brassens. Et puis ça a été un exemple pour moi, vraiment un exemple. Chaque fois que je me suis posé une question, à un moment donné, je me disais, attends, voyons, j'ai deux chemins à prendre. Il y a celui-ci, où est-ce que ça m'amène? Celui-ci, où est-ce qu'il m'amène? Qu'est-ce qu'il ferait lui? Est-ce qu'il prendrait ce chemin un peu tordu là qu'on me propose, ou bien est-ce qu'il le refuserait? Et souvent, je me suis dit, je suis sûr qu'il le refuserait, et je ne le faisais pas.
La dernière chanson transmet une joie contagieuse. C'est Are You Lonesome Tonight, un tube de 1927 repris par Elvis Presley en 1960. Vous avez choisi la version enregistrée à Las Vegas pendant un concert dans laquelle il est pris de fou rire à cause de sa choriste qui s'est un peu laissée emporter par l'exaltation du moment.
En fait, j'imagine que ça doit être ça. Je pense que c'était pas sa choriste. Ça devait être une choriste classique parce qu'il y a deux façons de chanter dans un chœur. Il y a la choriste de variété. Et puis elle, probablement, elle venait du classique et elle a chanté comme une chanteuse classique. Puis lui, il était écroulé de rire. Si vous allez voir, c'est extraordinaire.
Are you lonesome tonight, Elvis Presley?
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Did your heart fill with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Cost a doctor. Oh. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Remède à la mélancolie sur France Inter, nous continuons notre progression dans le sanctuaire antisplinétique d'Henri Dess.
J'ai besoin de rire de ce qui m'arrive en tant que parent, parce que je passe aussi mon temps à rater toutes sortes de choses et à tenter toutes sortes de choses dans l'éducation qui parfois tombe complètement à côté. Donc pour moi, c'est une nécessité de m'amuser de ça. Et le résultat, c'est ce que je mets dans ce livre. Mais ce livre m'aide autant dans ma vie de papa que ma vie de papa m'a aidé pour le faire.
On entend le pistolet qui vous fait rire, l'auteur de bande dessinée suisse Zepp, qui a d'ailleurs illustré l'un de vos derniers livres CD, Casse-pied. Et je ne le savais pas, il a sorti des disques de chansons humoristiques avec des titres comme « Dieu m'a changé en suisse-allemand ».
Dieu m'a changé en suisse-allemand, oui. Ça c'est déjà très drôle.
Oui. Ouais. Et la BD qui vous amuse, Henri Dess, c'est Happy Parents, paru en octobre dernier chez Delcourt. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans ça?
Bon, simplement que lui, il a encore une fois un regard sur les choses qui est très acéré, quoi. Je veux dire, chaque fois, il met le doigt sur le problème du papa, de la maman, avec ses enfants et tout ce qui tourne autour. Mais c'est hilarant, ce bouquin. Vous pouvez l'acheter demain matin, ça fera un beau cadeau à vous et à vos amis. C'est tout à fait extraordinaire. Mais tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, que ce soit son regard sur l'enfance avec Titeuf, ou tous les autres livres ont été des réussites, il a un talent absolument fou.
Ce qui est chouette, c'est qu'il n'hésite pas non plus à faire preuve d'impertinence.
Tout à fait. D'ailleurs, il m'avait dit que quand il faisait dire à son personnage Titeuf certaines horreurs, que les gamins disent d'ailleurs, hein, parce qu'il ne faut pas croire, dans les cours d'école, ils ne se gênent pas trop pour dire des choses épouvantables, qui ne comprennent d'ailleurs pas forcément. Je crois que son éditeur lui dit « Attends, écoute, Philippe, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est ton compte, les gens qui sont au bout et qui vont lire ça. » Et puis il m'a expliqué, il m'a dit « Voilà, j'ai entendu ces gens faire cette critique, mais à côté de ça, dans la vie, dans une vie d'artiste, on a une seule boussole. Et quand on peut avoir sa propre boussole et son regard sur sa boussole, c'est la meilleure chose. » Et il m'a dit, à partir du moment où ils m'ont proposé de faire autrement, j'ai regardé ma boussole, je lui ai dit non, ma boussole, elle va là, et pas ailleurs.
Zep, et vous, Henri Dess, vous avez des enfants que vous aimez. Zep en a 5, ce qui n'est pas le cas dans toutes les familles, mais je dois dire quand même que lire Happy Parents ne donne pas spécialement envie d'avoir des enfants, on a envie de les rendre au magasin.
Oui, exactement, c'est ça. Oui.
Dans une interview, Zep dit « Ça fait 20 ans que je fais l'enfant avec Titeuf ». Et vous, avec vos chansons qui s'adressent aux enfants, quelle est votre relation à l'enfant qu'on a à l'intérieur de soi?
Oui, on me demande toujours si je suis un enfant.
Bah oui, je suis désolée, je suis obligée de vous poser cette question.
Pour écrire des chansons pour enfants, je dis non. Je suis simplement un adulte qui essaye de comprendre ce petit monde, quoi. Les regarder, les comprendre, les observer. Parce que je regarde, je n'observe pas seulement les gens qui se promènent en short ridicule au bord de la plage. Je regarde aussi autour de moi mes petits-enfants, les autres enfants, etc. J'observe un peu leur comportement et ça c'est passionnant. Ils sont à un âge où tout bouge, tout change et ils sont questionneurs, etc. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup d'eau à mes idées.
Zep a aussi dit « C'est compliqué d'être parent, on apprend sur le tas et une chose est sûre, quoi que l'on fasse, nos enfants auront des reproches à nous faire. » Vous confirmez ?
Oui, je pense, mais en même temps, si on sait s'occuper d'eux, si on sait leur donner des bases et des jalons, ils vont vous en être reconnaissants plus tard. Les parents qui disent oui pour se débarrasser, c'est affreux ce qui va se passer pour eux plus tard, parce que les enfants, ils n'auront pas de repères. Ceux qui disent non à tout, ils vont être détestés, parce qu'on ne dit pas non à tout. On dit non quand c'est vraiment nécessaire aussi, quand c'est réfléchi. Et quand mes enfants, à moi, me demandaient des trucs, parce qu'à chaque âge, on vous pose des questions, on vous dit... Les enfants vous disent « Papa ou maman, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. » Puis on se dit oh, « C'est pas encore le moment, attends. » On leur disait « Attends, on va réfléchir. » Et avec Marie-Jo, on réfléchissait, puis on dit « Attends, est-ce que c'est le moment de leur dire oui, de leur dire oui ou non ?» Ou bien est-ce qu'on dit « Oui, mais... » Et quand on a réussi à trouver la bonne formule, ils étaient très respectueux et puis ils respectaient la règle. Si on leur disait « Oui, tu le fais, mais on voudrait que tu rentres à telle heure pile et pas plus tard. » Eh bien, ils respectaient ça.
Vous n'avez jamais fait comme dans votre chanson Le Petit Zinzin.
Bah, expliquer comment on fait les enfants.
Oui, mais en disant bah c'est pas compliqué, je vais tout.
Non, mais ça, bon, ça c'est la plupart des parents qui osent pas expliquer. Ça c'est l'histoire qui raconte ça.
La famille, c'est un peu votre remède principal, puisque même dans vos centres du monde, vous la citez. Alors vous dites, sur scène, dans mon spectacle et ma vie privée chez moi avec Marie-Jo, la visite de mes enfants et de mes petits-enfants. Alors, sans rentrer dans les détails, vous avez quand même connu des conflits familiaux, rassurez-nous.
Ah, bien sûr, ah. Naturellement. Il y a eu, ma fille ne m'a pas tellement posé de problème. Mon fils, oui. Mon fils, il était très, très pénible à l'âge de entre 13 ans et 17 ans. C'était terrible.
C'est la moindre des choses.
Oui, et moi, je partais beaucoup en tournée. Ma femme subissait, si vous voulez. Et quand je revenais, j'avais une autorité qui fonctionnait bien, tant que je pouvais le tenir. Mais c'était assez difficile. Et un jour, je me souviens, comme c'était hier, je le vois dans l'escalier de la maison, et il me dit « Papa, je m'excuse de te dire ça, mais vous avez beaucoup changé. Je vous ai beaucoup changé. » Je dis « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ben, je trouve que depuis un certain temps, vous êtes devenu un peu con. Ah bon, d'accord. C'est nous qui sommes devenus comme ça. En fait, j'ai expliqué qu'à notre âge, on change beaucoup moins qu'au sien, et que c'était lui qui avait un regard différent sur nous. On a gardé des rapports extrêmement forts et amicaux aussi.
Il est temps de s'occuper de nos ventres. Lilian Allôme a dégoté un son follement ghetto pour l'occasion.
So cannelloni, macaroni, mange bien ton bon spaghetti.
Rasta, j'suis la pasta, j'suis le rasta, pasta, masta.
Pasta Rasta de Radio Radio, afin de terminer par votre réel point commun avec Tony Soprano, Henri Dess, l'amore de la pasta.
L'amore de la pasta spaghetti.
Tous les dimanches soirs, donc ce soir si je ne m'abuse, vous célébrez le spaghetti chez vous en laissant la porte ouverte à tous vos proches. Alors d'abord je vous dis en secret, les spaghettis auraient été introduits en Europe par Marco Polo à son retour de Chine.
Ah,
voilà, ne le répétez pas, je n'ai aucune preuve matérielle.
Oui.
Vous avez précisé diverses recettes avec un bovin. Vous auriez une recette simple ?
Mais très très simple.
Allez-y.
Un spaghetti à la tomate. Mais il faut faire avec la vraie tomate. Enfin, vous prenez une tomate pelée en boîte, ça va aussi. Mais... Et bon, vous voulez que je vous fasse la recette comme
ah,
ça ?
Oui.
Bon. Donc vous mettez un peu d'huile d'olive au fond de la casserole. Faites un petit peu revenir les oignons. Revenir, ça veut dire qu'ils vont un petit peu se translucider. Là, je ne sais pas comment on dit, translucide. Et puis ensuite, vous mettez vos spaghettis. Vous les laissez un peu tourner dedans. Et puis, vous prenez une orange. Vous la raclez, quoi. Comment on dit ça ? Faire des petites... Il faut couper l'écorce très très fine, comme ça. Il y a des petits appareils qui font ça. On tire dessus, puis ça fait des juliennes. Voilà, juliennes d'écorce d'orange que vous mettez dedans et vous laissez cuire très très tranquillement. Et ce qui fait que la tomate prend un parfum d'orange et c'est délicieux. Voilà, c'est tout simple.
Bah, merci.
Salé, poivré, manger. Mettez sur le spaghetti bien chaud et avec un peu de beurre au fond et vous servez.
Quel est votre meilleur souvenir de ce rituel du dimanche soir que vous instaurez chez vous, avec les pâtes ? Ça a débuté comment, ce rituel ?
Bon, il y a longtemps, je ne me souviens plus du tout.
Et c'est toujours sympathique ou...
C'est toujours sympathique, oui. Toujours, parce qu'on n'invite que les gens qui ont du plaisir et qui ont envie de venir chez nous. Mais c'est souvent mon fils, c'est souvent ma fille. Voilà, de temps en temps, des amis qui disent « on pourrait manger ensemble ». Je dis « tiens, on fait un spagouze ce soir, viens ». Et il vient, mais on met simplement un peu plus de spaghettis, un peu plus de tomates. Et on mange ensemble, c'est un bon coup de rouge, c'est parfait.
Ben voilà qui est réjouissant.
Oui, c'est très simple.
Pour finir, une phrase philosophique de San Antonio. Les hommes sont empêtrés dans leurs fantasmes comme des spaghettis dans du parmesan fondu. Voilà, c'est la formidable chute de cette émission. Comment vous vous sentez à présent, Henri Dess ?
Mais bien, vraiment, vous étiez très, très gentil, très agréable. J'ai eu du plaisir à vous parler, c'était un bon moment.
Bah pour nous aussi, merci beaucoup.
Vous êtes gentil, merci.
Merci d'être venu dans cette émission. On peut se procurer votre double CD collector accompagné d'un livre pop-up illustré par Gérard Lomonaco, 50 ans de chansons aux éditions du Millepatte. Depuis 2012, on peut écouter Radio Henri Dess, soit 250 de vos chansons sans publicité 24 heures sur 24 sur Internet accessible dans le monde entier. Et on pourra aller vous voir en concert les 17 et 18 janvier au théâtre de Beausobre, à Morges, en Suisse. Au revoir et merci vraiment encore.
Merci beaucoup, au revoir.
Vous retrouverez, chers auditeurs, tous les remèdes évoqués sur la page internet de l'émission. J'espère que vous roulez à présent comme d'allègres sopalins dans le firmament. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du chef cuisinier Alain Passard.